pilote, arts et lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. Jean Pichard, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de faire paraître aux éditions du Canoë un livre magnifique dont le titre m'a d'emblée captivé. Et puis j'ai lu pour vérifier, comme je vous l'ai dit. Le titre, c'est « Les horizons perdus ». Donc ça paraît aux éditions du Canoë. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce titre, « Les horizons perdus » Est-ce qu'on ne peut pas dire que toute vie est une suite d'horizons perdus? Et il y a aussi donc cette image de l'épave du bateau échoué avec tous les horizons, toutes les mers qu'il a traversées, tous les horizons qu'il a fendus et puis que lorsque c'est échoué, c'est perdu. Est-ce que vous pouvez nous présenter donc votre titre?
Alors le titre en fait c'est pas le premier, c'était Finistère qui était inspiré du beau film de Jean Epstein. Et Finistère c'était un petit peu la fin de la terre, le Finistère bien entendu. Enfin moi je viens de Bretagne donc ça m'est proche. Et il était déjà pris ce titre là. Et à l'époque aux éditions de Différence le livre devait être publié, on avait changé le titre et j'avais proposé Les Horizons Perdus qui est aussi un titre de film. C'est un film qui est tiré d'un roman de 1933 qui s'appelle de James Hilton, il s'appelait. Et c'est Frank Capra qui avait tourné ce film. Et c'est un petit peu la thématique de mon livre. C'est-à-dire que c'est des gens qui partent et qui finalement vont pas arriver là où ils voulaient aller. Ils vont s'écraser dans l'Himalaya et découvrir un lieu magique, improbable, qui est une sorte d'oasis loin des neiges et du froid où tout le monde vit dans une société utopique. Mais moi, mon projet était différent, bien entendu. Les horizons perdus, il a aussi une dimension presque philosophique. Enfin, je pense qu'on n'est peut-être pas dans la bonne direction en ce moment. Enfin, mais ça fait un moment déjà. Hein. Et qu'on perd un peu nos repères et qu'on ne va pas arriver là où on veut aller. Et c'est un peu angoissant peut-être pour beaucoup de gens. Enfin, on sent que les choses sont en train de nous échapper un petit peu, ou même beaucoup. Et c'est cette angoisse-là qui fait partir mes deux personnages qui prennent le bateau et qui font une démarche inverse ou identique à celle que font les gens qui traversent la Méditerranée pour venir se réfugier en Europe. Enfin, c'est deux Européens qui quittent l'Europe parce que enfin, tout s'effondre et qui cherchent un endroit plus sûr sur Terre. Voilà, enfin, en gros, le cadre.
Alors, une question, à quelle époque se déroule votre livre? Et vous-même, vous habitez Berlin et il est question de Berlin dans ce roman.
Alors, c'est un roman relativement contemporain. Excusez-moi parce que je sors d'une bronchite, donc j'ai la voix un petit peu enrouée. Je vis à Berlin depuis 1979, c'était bien avant la chute du mur. Et j'observe quand même comment les choses évoluent, changent. Et la chute du mur a été un bouleversement quand même malgré tout dans la vie berlinoise. Et j'observe que les choses évoluent, changent. Et justement, ça m'a donné l'idée de ce livre. C'est la suite en fait d'un autre livre qui s'appelait Trace et qui se passe dans les années 80 à Berlin-Est, et on retrouve les mêmes personnages le personnage principal, le narrateur, c'est le même, et il évoque, on voit au début du livre, dans les passages qui se passent à Berlin, on rencontre des amis à lui, qu'on voyait déjà dans le roman précédent. Donc c'est une suite un petit peu, et ce livre-là, il était prêt en 2015, il aurait dû sortir aux éditions de la Différence en 2017, et les éditions de la Différence ont interrompu leur publication, ils ont été mis en liquidation judiciaire malheureusement, et c'est triste parce que c'était une très belle maison d'édition. Et donc le livre, il était déjà imprimé et puis il n'est pas sorti. Donc là, c'est une résurrection d'une certaine manière. Donc il est plus actuel que jamais. C'est-à-dire quand je l'avais écrit, il y avait des choses que je pressentais, que j'annonçais, et entre-temps, elles sont arrivées et elles arrivent. Donc je ne vais pas dire qu'il est prémonitoire, mais en fait, il est plus actuel que jamais. Voilà.
Alors, il est question d'Éric et du narrateur. Le narrateur, lui, a des liens, des racines dans l'île de Groix. Il a la maison de son oncle. Alors, l'île de Groix, c'est une île merveilleuse, toute petite, mais une espèce d'Éden, nous en parlerez peut-être. Et Éric, donc, lui, propose au narrateur de tout larguer, de partir sur l'océan pour ne plus jamais revenir. Et sans radio, sans GPS, avec la seule science des anciens navigateurs, sans point d'escale annoncé ni envisageable d'emblée. Donc c'est un départ sans retour, c'est comme la vie, quoi.
Oui, on va quelque part, mais on ne sait pas où on va arriver, c'est plein de surprises, enfin, c'est le charme du voyage aussi. Enfin, bon, beaucoup de gens ne savent plus voyager aujourd'hui, ils prennent des voyages organisés où tout est déjà programmé. Là, c'est un voyage de découverte, un petit peu comme les grands explorateurs autrefois, sauf qu'entre-temps, on connaît un petit peu la géographie mondiale, on sait un petit peu où sont les continents et où sont les escales. Mais ils ne savent pas vraiment où ils vont aller. Et au fur et à mesure qu'ils avancent, ils se rendent compte que la situation qu'ils ont quittée en Europe, elle n'est pas simplement en Europe, elle est mondiale. Donc c'est à la fois un beau voyage et puis aussi quelque chose de dystopique et qui fait un petit peu peur.
Alors cette science des anciens navigateurs, quelle est-elle ?
Alors, moi je les admire beaucoup. Enfin, ils partaient vraiment à l'aventure, là c'est vraiment le terme. Ils partaient avec des petits esquifs, les caravelles, c'était pas des grands bateaux comme on pense souvent. C'était des bateaux assez lourds, difficiles à manier, mais ils ont réussi quand même, je pense là, en ce moment au Portugal et aux Portugais, ils ont quand même parcouru le monde entier. Enfin, ils sont partis jusqu'au Japon, ils ont découvert le Japon, c'était des navigateurs extraordinaires, enfin moi je les admire. Ils arrivaient avec les étoiles à se repérer, à savoir où ils étaient. Ils n'avaient pas tous les instruments modernes dont on dispose aujourd'hui. Et c'était une science un petit peu comme les gens, les caravanes qui traversent les déserts, on ne sait pas non plus comment ils s'orientent, mais ils arrivent toujours à bon port, ils savent comment traverser toutes ces régions inconnues ou mal connues, et ils arrivent toujours quelque part. Donc ça, moi, j'admire beaucoup.
Alors, Éric propose au narrateur de venir avec lui pour ce voyage pratiquement désespéré sur son voilier, la Marie-Belle. Alors là, les voiles, Marie-Belle, c'est comme une idée de mariage. Donc au départ, c'est beau, il y a du vent, il y a des voiles, il y a la belle Marie, il y a le voilier, et le narrateur n'est pas très aguerri au maniement des voiliers.
Et c'est un mousse, on dira, ou un moussaillon. Il va apprendre ça au fur et à mesure. Ça va être un petit peu aussi la tension entre les deux personnages. Il y en a un qui est un professionnel de la voile. Enfin, il est moniteur de voile au Glénan. Il connaît très bien. Il a déjà fait le tour du monde. Alors que l'autre, il a caboté un petit peu avec son oncle autrefois, mais pas avec un bateau à voile. C'était avec un petit chalutier. Et c'est pas ni un pêcheur ni un marin. Enfin, même s'il est né sur une île, c'est pas un marin. Et finalement, il y a un déséquilibre qui se crée dès le départ entre les deux, où il y en a un qui est le propriétaire du bateau et puis qui sait naviguer, et puis l'autre qui est un petit peu réduit. Ça va évoluer quand même. Enfin, bon, je ne vais pas trahir le livre, mais bon, ça va évoluer par nécessité d'ailleurs. Et il va apprendre assez bien à se débrouiller.
Alors, ce bateau, ce voilier, est tributaire du vent. Lorsqu'il n'y a pas de vent, on reste à standstill, comme disent les Anglais, c'est-à-dire immobile, voilà. Sous la chaleur, sous n'importe quoi. Et c'est la panique, parce que si jamais, comme lorsqu'il y a rupture d'essence et d'énergie, et qu'il n'y a pas de vent, on peut penser qu'on est comme sur une île déserte.
Oui, c'est des moments angoissants, c'est des moments que tous les navigateurs qui passent par le poteau noir, comme on l'appelle, connaissent. C'est des périodes d'accalmie. En ce moment, il y a cette fameuse régate, le vent des globes, c'est ça. Le vent des globes, je la suis d'assez près parce que c'est un petit peu le parcours, sauf qu'ils le prennent dans l'autre sens, mais ils vivent ça, des calmes plats où plus rien ne se passe, où ils n'avancent plus. Bon, maintenant, eux, ils savent où ils savent exactement que ça ne va pas durer, que le vent va revenir. Eric le sait aussi, il a l'expérience de la chose, le narrateur, lui, non, il est un petit peu paniqué quand il vit cette période-là. Mais bon, ça fait partie des aléas de la navigation, donc c'est soit ça, ou les tempêtes, il se passe toujours quelque chose en mer, toujours.
Alors, Eric veut quitter ce monde, en traversant l'Atlantique et les autres océans, ce monde qui se désagrège, c'est-à-dire quelle est cette ruine, cette tombée en ruine du monde?
Alors, ça c'est mon observation, c'est-à-dire qu'on est de plus en plus dépendant d'une technologie sophistiquée mais fragile. Et j'ai travaillé longtemps en milieu de bibliothèque, j'ai vu ça évoluer, c'est-à-dire qu'on fait plus confiance maintenant à des ordinateurs qu'à des fichiers papier. Bon, ça c'est une chose. Mais quand les ordinateurs tombent en panne et ça arrive, ça va se multiplier, on l'a vu il n'y a pas très longtemps, il y a eu cette fameuse panne Windows mondiale, c'était au mois de juillet de l'an dernier, et là tout d'un coup, dans les aéroports, dans les gares, les terminaux de banque, etc., c'était des écrans bleus, on les appelait les écrans bleus de la mort, et finalement plus rien ne fonctionnait. Et ça peut durer quelques heures, ça peut durer quelques jours, et si ça dure plus longtemps, là on se retrouve dans un gros problème, presque un effet domino, c'est-à-dire que tout va s'enchaîner et va provoquer une crise majeure. Et on est à la merci de ça. On pense que c'est sûr et que la technologie a réponse à tout. Et je pense qu'on se met en danger parce qu'on se rend complètement dépendant de ça. Et on perd des capacités qu'on avait autrefois et qu'on a encore un peu, mais qu'on est en train de perdre au fur et à mesure. Les gens ne savent plus s'orienter. Les gens ont besoin de leur GPS pour pouvoir bouger. Ils ne savent plus lire de cartes ni de plans. Quand on regarde les oiseaux, par exemple, qui s'orientent et qui traversent les oiseaux migrateurs, mais aussi les pigeons voyageurs, la nature est beaucoup plus douée que tous ces instruments artificiels qu'on développe. Et on se rend dépendant de ces appareils-là. En même temps, ces appareils-là créent des problèmes environnementaux énormes qui font que... j'ai lu il n'y a pas très longtemps cette bande dessinée de Christophe Blain et puis de Jean-Marc Jancovici, et c'est effrayant. On se rend compte que finalement on va droit dans un mur en ce moment. Donc ça, c'est le constat. Donc à partir de ce constat-là, c'est vrai que on va avoir de plus en plus de pannes, et on les a déjà, et elles se multiplient. Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand j'ai écrit mon livre, il y avait des choses qui étaient déjà là, mais maintenant mon livre est plus actuel que jamais, parce que les choses que j'annonçais il y a 10 ans, elles sont maintenant présentes. Et je crois que ce qui est inquiétant, c'est que c'est pas tant les bouleversements écologiques qui s'annoncent que la réaction des humains, et on complique les choses par peur, justement, par angoisse. C'est mon constat, en fait. Mm-hmm. Et que ce constat-là, il me fait, enfin, moi aussi, il m'effraie un petit peu. Alors, j'espère qu'on va réagir et puis qu'on va se réveiller et puis se dire, mais est-ce qu'on a besoin de tout ça, de tous ces appareils qui nous rendent dépendants? On peut vivre autrement. Enfin, la vie est magnifique, elle est belle. La nature est incroyablement beaucoup plus riche que tout ce qu'on peut créer. Enfin, il faut l'observer, il faut la regarder de près, enfin, que ce soit les plantes ou les animaux. C'est incroyable. Donc, c'est ce que j'essaye de retrouver à travers mon livre. Voilà.
Oui, alors justement, moi, ce qui m'a vraiment frappé, et à l'issue de la lecture de ce livre, donc il y a beaucoup de notions importantes que nous évoquerons avec vous, ce sont les troubles qui agitaient pendant ce roman Berlin, c'est aussi que partout la planète se transforme en champ de ruines et que surtout ce qui est grave, ce qui m'a frappé, c'est le naufrage tragique de tout sentiment humain et l'entraide disparue. C'est-à-dire, quand il y a quelque chose, on le remarque aussi lorsqu'il y a un séisme, lorsqu'il y a un grand incendie, il y a ceux qui viennent piller, pirater, donc c'est pas pour aider, mais c'est pour se nourrir des ruines, le naufrage tragique de tout sentiment humain.
Alors on dira c'est humain, peut-être que l'humain il est ça aussi, et ça c'est assez désolant. Bon, ceci dit, j'observe aussi l'inverse, c'est-à-dire que il peut y avoir de l'entraide. Je le montre dans mon roman. Enfin bon, il y a un récif, ils vont aider un Australien un petit peu, ils vont essayer en tout cas. Quand ils arrivent aux Malouines, ils vont en trouver aussi de l'aide et ils vont vivre des choses un peu plus réconfortant, mais c'est vrai.
Mais c'est pas en Europe, c'est pas en Occident, c'est
dans. En Europe, c'est peut-être lié quand même au développement de ce que je décrivais avant, c'est-à-dire tous ces appareils qui devraient nous relier. En fait, ils nous divisent ou ils nous éloignent les uns des autres. C'est-à-dire que, on ne se rencontre plus, on ne se voit plus, on envoie des SMS, la langue s'appauvrit. Moi j'essaye de garder des contacts proches avec les gens et je les rencontre, je les vois. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont en train de se défaire et de se perdre. Mais c'est pas nouveau en soi. Enfin, il y a plein de films qui décrivent ça depuis longtemps. Déjà, il y avait un film de Haneke, Le Temps du Loup, qui est effrayant, mais qui montre ce que moi je décris un petit peu dans mon livre, mais à distance, parce que je le vis pas, je le vois de loin. C'est-à-dire qu'on arrive dans une ville complètement vide, hein, ce que je disais, les dysfonctionnements font que s'il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'eau. S'il n'y a plus d'eau, la ville, elle est morte. On ne peut plus vivre dans une ville sans eau. Donc, il n'y aura plus de livraison ou de commande, il n'y aura plus de ravitaillement de la ville, tout va disparaître. Donc les gens partent sur les routes et puis partent dans les campagnes où il y a peut-être des choses à grignoter ou à piller. Enfin, tout est un petit peu de cet ordre-là. Et c'est de l'ordre de la survie, tout ça. Et ils peuvent être encadrés par des gens qui sont mafieux, qui sont des gangsters, qui sont des bandits, et puis qui déplacent ces populations-là comme du bétail. Enfin, c'est effrayant. Mmh. Et il y a des films, je citais celui-là, il y en a un autre qui s'appelle Elle comme
l'enfer.
De Fellman qui raconte la même chose. Enfin, que ce soit la littérature ou la science-fiction autrefois ou les films qui se sont intéressés à ce sujet-là. Le sujet en soi, il n'est pas neuf, pas du tout. Enfin, il y a longtemps qu'on pressent que tout ça peut mal se finir. Il y avait un roman de science-fiction autrichien il y a quelques années, c'était en 2013 je crois, qui s'appelait Blackout et qui racontait une grande panne électrique qui faisait que...
Pardon, excusez-moi, vous avez dit le titre, c'était quoi?
Blackout.
Blackout, oui. Ok. Le propriétaire de Maribel, de la Maribel du voilier, il avait quand même une idée de destination, en tout cas d'itinéraire, sans trop le dire au narrateur. Et c'était, si j'ai bien décodé, c'était de fuir les endroits où la technologie est là, aller dans les îles sous-développées, où le monde est resté peut-être encore à son état naturel, natif, où la technologie n'a pas opéré sa gangrène.
Exactement, c'est ça, c'était son rêve. On ne dévoilera peut-être pas la destination exacte, mais bon, il retourne quelque part à un endroit qu'il connaissait. C'est vrai que c'est un endroit loin de la civilisation, loin de ce qu'on connaît dans les pays civilisés. On retourne à l'état naturel. Voilà.
Alors partout, donc, le monde se décompose rapidement. Manque d'essence, d'énergie, surtout l'énergie, il n'y a plus...
C'est
le truc central. Rupture d'électricité, rupture de communication, rationnement, les magasins sont vides, il n'y a pas d'eau, panne informatique. Donc tout ça, c'est la désagrégation du monde. Et il y a dans ce monde en ruine, c'est comme l'idée d'une épave, un bateau qui a traversé des océans et puis qui échoue, et qui est là, qui perd ses boulons, ses parois de jour en jour, qui est habité par la boue, par les oiseaux, par les pilleurs. Tout ça, ça relève, en tout cas ça évoquait en moi une idée de l'apocalypse, donc un reflet biblique. Est-ce que c'est mon imaginaire ou est-ce que vous y avez pensé ?
Non, j'y ai pensé. Enfin bon, il y a l'Apocalypse, bien entendu. Enfin bon, il y a Saint Jean derrière tout ça. Il y a beaucoup de textes sacrés qui en parlent, sacrés ou non, moins sacrés. Enfin, il y a le Codex Regus Scandinave qui l'évoquait avec le Ragnarök que j'évoque dans mon livre. Il y a quelque chose de cet endroit-là, c'est-à-dire la fin d'un monde, les horizons perdus, et j'avais appelé ça Finistéré. C'était un petit peu ça l'idée, c'est que finalement, faisons attention, ce qu'on pense. Et alors Jules Verne, je parle de Jules Verne aussi, parce que Jules Verne il est présent dans mon livre tout le temps, c'est le voyage, mais c'est aussi le Jules Verne des derniers textes qui était beaucoup moins sûr que la technologie et tous ces progrès qu'il décrivait si bien, que ce soit le voyage dans la Lune ou le Nautilus qui parcourait les mers, il était beaucoup plus prudent et il avait écrit un texte très sombre où il y avait un déluge, on retrouve la Bible, qui noyait la terre entière. Il y avait un bateau de scientifiques qui partait un petit peu à la dérive, ils avaient trouvé un endroit émergé puisque la terre était recouverte d'eau, et il y avait un signal qui leur faisait croire que quelque part il y avait encore des gens qui vivaient. Ils se dirigeaient vers ce point-là et en fait ils se retrouvaient sur un point émergent, le sommet d'une montagne peut-être, et donc ils atterrissaient là, ils accostaient là, et là ils se rendaient compte très vite qu'ils étaient sans doute les derniers survivants sur la Terre, et ils vont régresser. Alors ils vont faire des il y en a un qui va faire des fouilles archéologiques, il va tomber sur quelque chose d'extraordinaire, c'est des traces d'une civilisation antérieure qui était autrement développée que la nôtre et qui avait déjà tout inventé, tout trouvé, et qui avait disparu. Donc en fait il y a une espèce de cycle là qui se fait, que on connaît les civilisations qui viennent et qui disparaissent, que ce soit les Grecs, les Égyptiens, les Mayas, les Aztèques, tout ça vient et ça part, et puis il y a quelque chose qui se reconstruit dessus. C'est un petit peu comme les saisons, c'est comme les les arbres qui perdent leurs feuilles, et puis après, il y a de nouvelles feuilles qui poussent au printemps, et puis la nature continue. Mmh. C'est toute la position de l'homme là, qui est décrite et qui est mise en question, savoir qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on fait, quelle est notre place.
Alors, j'ai envie de parler, si vous êtes d'accord, de cette pastille de lumière, cette île lumineuse, l'île de Groix, que je ne connais pas. Que vous
ah.
Non, je ne connais pas, mais j'ai très envie de connaître.
Alors, on en parle de plus en plus. Hein,
ah voilà. Oui, oui. Alors, parlez-nous. Donc, le narrateur, lui, habite Berlin, comme vous actuellement, puisque vous nous appelez de Berlin. Et il va en vacances à l'île de Groix, où il a la maison de son oncle. Son oncle qui était pêcheur, qui avait un bateau. Mais le narrateur y retrouve l'oxygène dont il a besoin. Et à un moment donné, vous parlez de Berlin, vous dites cette ville folle derrière son mur. Est-ce que Berlin, aujourd'hui, en 2025, c'est aussi cette ville folle qui n'a plus le mur ?
Alors, Berlin, je l'ai comparé aussi dans mon livre à une île, c'est-à-dire que je parle de Berlin-Ouest, bien entendu, c'était entouré d'un mur, donc on était un petit peu entouré par l'Allemagne de l'Est et on ne pouvait pas en sortir. Donc, quand le mur est tombé, là, on a perdu cette insularité-là. La ville a changé, elle n'est plus la même, c'est vrai. Par contre, moi, je m'y sens toujours très bien et j'ai vu sur une île, d'ailleurs, à Berlin, enfin, mon quartier est entouré d'eau. Donc, pour venir chez moi, on est obligé de passer sur un pont. Et cette idée-là, moi, les îles sont mes thèmes. Enfin, j'ai plusieurs livres qui parlent des îles et c'est des mondes pour moi qui sont intéressants, peut-être psychanalytiquement parlant. C'est des mondes fermés où on se sent protégé, mais en même temps en danger. C'est les deux. On est menacé par la mer autour, là, on ne va pas venir nous déranger. Bon, il y a toujours des gens qui arrivent avec des bateaux, qui repartent après. Enfin, bon, l'île de Groix vit ça un petit peu une fois par an en été. Enfin, l'île est envahie. Il y a des embouteillages, etc. Il n'y a pas besoin de voiture sur l'île de Groix. C'est une île qui est petite, elle fait 8 km sur 3. Mais c'est vrai qu'en été, les insulaires ne sont plus chez eux. Quoi. Enfin, on peut peut-être en parler aussi des îles, enfin, des villes. Les villes vivent la même chose avec les touristes. Enfin bon, ça c'est un phénomène mondial, ça. Mais
qu'est-ce qui vous retient à Berlin, vous encore, vous Français ?
C'est la nature qui me retient à Berlin, entre autres, et la culture, les deux. C'est-à-dire que c'est une ville où il y a énormément de nature, mais qui est imbriquée, c'est-à-dire il y a des lacs et des forêts en pleine ville, et immense. Enfin bon, on peut marcher pendant des heures en forêt, hein, et on est encore en pleine ville. De chez moi, je peux partir à pied le long de la Spree et je peux marcher sur des kilomètres comme ça. Je pense être en pleine nature. Enfin, on ne voit plus les maisons, on ne voit que l'eau et les arbres. Donc, c'est une ville magique pour ça. Et puis, il y a énormément de culture aussi. Donc, il y a beaucoup de musées, il y a des théâtres, il y a alors, les cinémas. Le cinéma, c'est une autre de mes passions. Et c'est la ville d'Allemagne où il y a le plus de cinéma. Mmh. Et c'est ce qui m'avait attiré à Berlin, d'ailleurs. J'avais vécu avant à Paris pendant 8 ans. Et Paris, bah, oui, le cinéma, c'était encore ce que moi je pouvais me permettre ou me payer, mais Berlin, c'était un peu la même chose.
Et l'île de Groix, vous y allez encore ? Vous avez un point de chute ?
Et tous les ans. Alors en fait, l'île de Groix, je l'avais découverte par hasard il y a plus de 20 ans, en 2001. J'étais à Paris, je ne savais pas quoi faire de mes vacances. J'avais lu un petit entrefilet dans Télérama où il parlait d'un festival insulaire de films. Et je m'étais dit, c'est une idée formidable. Et je travaillais à ce moment-là pour la Cinémathèque allemande. Et mon travail consistait à collectionner les catalogues de festivals de films. Et donc je me suis dit, il faut absolument que j'aille voir, que je me rende compte sur place de ce que c'est. et là j'ai découvert quelque chose de formidable, c'est-à-dire sur une île, on présentait des films documentaires et de fiction sur d'autres îles, et c'était mondial. Et j'y suis retourné tous les ans, et j'y retournerai encore cet été, bien entendu. Et c'est pour ça que mon livre commence aussi sur l'île de Groix, au moment du Festival du film. Et le Festival du film insulaire, enfin, c'est quelque chose de formidable, parce que ça nous fait voyager. On est sur une île et en même temps on va voir d'autres îles. Et ils changent la thématique chaque année, enfin, ils passent des films sur toutes les îles, mais chaque année ils mettent le projecteur sur une île ou un groupe d'îles particulier. Donc l'été prochain, ça sera les îles québécoises.
Alors, Jean Pichard, pour clore cette interview absolument passionnante, parlez de vous. Vous avez traversé les métiers de l'enseignement, du bâtiment, la photo, l'informatique, et vous écrivez. Alors, il y a aussi un fil rouge, on l'a vu, c'est celui, une rampe, c'est celle où le fil rouge, la rampe du cinéma, l'amour du cinéma, et c'est comme un fleuve qui vous fait voyager dans le monde.
Oui, peut-être, peut-être. Enfin, l'écriture aussi, parce que j'ai toujours écrit. J'ai jamais arrêté d'écrire. J'ai publié très tard. Enfin, le premier roman qui aurait dû sortir, c'était... j'étais plus très jeune, déjà. C'était en 2017, donc... Madame Lambrich, qui dirigeait l'ancienne maison d'édition de La Différence, enfin, elle a créé une nouvelle petite maison d'édition qui s'appelle Le Canoë, et elle a tout de suite publié un livre, enfin, c'était un des trois premiers livres qu'elle a sortis dans cette nouvelle collection, qui s'appelle Lisbonne disparaît, et c'est déjà l'histoire d'une île, et c'est déjà une histoire maritime. Et puis après, il y en a eu un deuxième, qui était L'île des morts, ce fameux tableau de Böcklin exposé à la Alte Nationale Galerie de Berlin. C'est un tableau que tout le monde a vu ou connaît d'une manière ou d'une autre. C'est un tableau enfin, rare, chantant enfin, par l'émotion qu'il crée. On est devant et puis on est interpellé, interloqué en même temps. Enfin, c'est un tableau extraordinaire. Et j'ai écrit un roman. Enfin, le roman d'un tableau, en fait, c'est le sous-titre que mon éditrice avait donné. Et L'île des morts, c'est quand même quelque chose de passionnant. Et ça rappelle. Et en fait, je parle dans ce livre-là d'une autre île allemande, cette fois-ci, qui s'appelle Heligoland. Et Heligoland, c'est une île de la mer du Nord, où je pars du principe que c'est l'île qui a inspiré le peintre. C'était un peintre d'origine suisse, mais qui vivait en Italie. Mais je raconte comment il a pu avoir l'idée de peindre cette île d'Heligoland où il n'est jamais allé. Voilà, c'est des mystères, tout ça aussi.
Alors, nous atterrissons ou bien nous jetons l'ancre. L'interview est terminée. Jean Pichard, je vous remercie beaucoup de nous avoir parlé de votre livre « Les horizons perdus » qui paraît aux éditions de la Canoë et qui est absolument très passionnant, très émouvant aussi. Merci beaucoup et à bientôt.
Merci et puis bonjour aux auditeurs.
Strasbourg Pilote, Arts et Lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange.